Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Massacre, viol, guerre, groupes armés, c'est l'image désolante que le monde a présentement de l'Ituri. Il est temps d'envisager les options politiques qui permettent d'arrêter la guerre. Message de l'ancien président de la CENI aux jeunes de l'Ituri qui ont pris les armes. En séjour à Bounia, Corneille Nanga a accordé une interview exclusive à votre radio. Il est l'invité de ce journal. Le groupe japonais Mitsubishi Corporation projette l'installation prochaine de ses activités en RDC. Ceci ressort de la participation de la RDC aux travaux de TICAD en Tunisie. Ce forum est un espace de discussion du développement du continent africain appuyé par le Japon. Et puis, nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire 2022-2023 en RDC. Au Maniema, le chef de secteur des BIA vole au secours de 84 écoles primaires en fourniture scolaire dans la sous-division de Kalima. Il s'agit d'appuyer la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État, explique le donateur. Madame, messieurs, bonjour. Ne vous entretuez pas, mais envisageons plutôt les options politiques qui permettraient qu'on arrête la guerre. C'est le message de l'ancien président de la commission électorale, Corneille Nanga, aux jeunes de l'Ituri qui ont pris les armes contre la République dans une interview exclusive à Radio Okapi dimanche, après son séjour de 48 heures à Bounia, où il a animé une conférence sur le thème « Rôle de la jeunesse dans la recherche de la paix et du développement dans un état post-conflit ». Corneille Nanga estime qu'il est temps que l'Ituri aspire à une paix durable pour laisser la place à son développement. Corneille Nanga est au micro de Martial Kizabiamungu.
L'image qu'on a aujourd'hui à travers le monde de l'Ituri, c'est l'image qui est désolante. C'est tuerie, massacre, viol, guerre, groupes armés et autres. Que cette image-là, il nous appartient à nous de travailler pour que cette image change. En disant qu'il y a un temps pour tout, c'en est trop. Mais non, il faut la paix, il faut le développement. Mes frères qui se sont énervés, qui sont frustrés pour une raison ou une autre et ils ont décidé de prendre les armes. Nous leur disons que lorsqu'on tue, celui qui tire est un Iturien. Et au bout du fusil, c'est aussi un Iturien. Ne nous entretuons pas entre nous. Qu'on ne nous manipule pas. Regardons la situation en face et envisageons plutôt des options politiques qui permettraient qu'on arrête un peu la guerre, mais qu'on commence définitivement le développement, parce que cet espace du territoire ou cette province est plutôt une province à potentialité énorme.
Par ailleurs, les armées ougandaises et congolaises ont décidé vendredi dernier de prolonger de nouveau des 2 mois les opérations militaires dénommées Ushuja qu'elles mènent conjointement contre les EDF et autres groupes armés dans le territoire de Beni au nord Kivu et Irumu en Ituri. Cette décision a été prise au terme des 2 jours des travaux d'évaluation de la 3e phase et de planification de la 4e phase de ces opérations conjointes tenues à Fort Portal, une ville ougandaise du district de Kabore. Blaise Ndongala Mayanda pour les détails.
Dénommée Ushuja, ces opérations militaires conjointes viennent d'être prolongées de nouveau de 2 mois après la prolongation de juin dernier. Cette décision a été prise vendredi au terme des 2 jours de travaux d'évaluation de la 3e phase et de la planification de la 4e phase de ces opérations. Dans sa déclaration à la fin de ces travaux, le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-IPDF, général-major Kamil Bombele, a affirmé que tous les grands bastions des rebelles EDF ont été détruits et conquis depuis le lancement de ces opérations. Pour cet officier militaire, cette nouvelle prolongation décidée par la haute hiérarchie militaire des deux États permettra aux deux forces de mettre fin complètement aux groupes armés qui écument les territoires de Beni au nord Kivu et celui d'Irumu en Ituri. Le général-major Kamil Bombele a fait savoir que durant ces 2 mois, les FARDC et l'IPDF vont mettre fin à tous les groupes armés, y compris les EDF. Rappelons que ces opérations conjointes ont été lancées le 30 novembre 2021 contre les EDF et autres groupes armés dans les territoires de Beni au nord Kivu et celui d'Irumu en Ituri. C'est ainsi qu'au moins 1700 militaires ougandais ont été déployés dans ces 2 provinces.
Et puis, cette semaine, Radio Okapi entame une série de reportages sur le régime des sanctions de l'ONU. Il est question plus précisément du régime qui consiste en un embargo sur les armes à l'encontre des groupes armés actifs dans des pays listés comme étant en conflit. Ce régime prévoit également des sanctions individuelles envers des personnes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité. Alors, Cynthia Bachizi, quel est exactement le régime actuel en cours en RDC?
Bien, une petite contextualisation s'impose. Nous sommes en 2003, la RDC est coupée en deux et les hostilités se poursuivent dans la partie est du pays. Situation qui menace le processus de paix amorcé par l'accord global et inclusif signé en décembre 2002. C'est ainsi qu'est adoptée la résolution 1493 le 28 juillet 2003 qui instaure un embargo sur les armes en RDC. Sont concernés tous les groupes armés étrangers et congolais opérant dans le Grand Kivu. Par la suite, ce régime a été modifié et reconduit à plusieurs reprises, mais le grand changement intervient en 2008 avec la résolution 1807. On ne parle plus alors d'embargo, mais plutôt du régime de notification qui ne concerne que les vendeurs d'armes. Cela veut dire que les fournisseurs du gouvernement congolais doivent notifier l'ONU avant de livrer les armes en RDC. Mais là encore, cette mesure a été assouplie en juin 2022 avec la résolution 2641 qui ramène l'obligation de notification à seulement 5 types d'armes légères. Le but est vraiment d'asphyxier les groupes armés et mieux contrôler la circulation de ces armes légères.
Il est important de rappeler que les régimes des embargos ou notifications concernent également plusieurs autres pays. La RDC n'est pas seule concernée. À titre illustratif, la République centrafricaine où abondent les groupes armés est aussi sous le régime de notification. Justement, dans notre reportage qui sera diffusé demain, nous reviendrons sur les raisons qui motivent l'ONU à appliquer des embargos sur les armes pour faire face à certaines situations dans les pays en conflit. Affaire massacre de Yumbi en 2018 dans la province de Maïndombe. Un avocat hausse le ton et dénonce le fait que jusque-là, les auteurs de ces tueries qui sont déjà bien identifiés ne répondent pas encore de leurs actes devant la justice. Il s'agit bien de maître John Lopanza, natif du territoire de Yumbi. Dans un entretien avec Radio Kapi samedi, ce dernier a déploré cela et invite le président Félix-Antoine Tshisekedi à s'impliquer dans ce dossier pour que la justice soit faite. Le point avec Irène Boma.
Près de 4 ans après les affrontements intercommunautaires qui ont éclaté dans plusieurs localités du territoire de Yumbi entre les peuples Nounou et Tende ayant occasionné le massacre de plusieurs centaines de personnes pour la plupart de l'ethnie Banounou Bobangi, la justice n'est toujours pas rendue en faveur des victimes. Maître John Lopanza, un avocat natif de Yumbi, regrette cela et sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour la condamnation des auteurs de ces crimes odieux.
À notre regret, toutes les structures qui avaient enquêté sur la faire, notamment à Cage. Elles avaient dressé un rapport commun faisant état des identités des commanditeurs. Ceux qui ont donné des armes, des munitions, des mots d'ordre pour tuer les peuples Nounou sont bien identifiés. Et aujourd'hui, ils sont libres et vrais même au sein des institutions de la République. C'est ainsi que nous demandons l'implication du chef de l'État pour que la justice soit faite, car la justice élève une nation.
Maître John Lopanza plaide aussi pour le rapatriement des milliers de peuples Banounou Bobangi réfugiés au Congo-Brazzaville et vivant dans des conditions inhumaines. Rappelons qu'au moins 530 personnes ont été tuées, des centaines de maisons incendiées et pillées et des centaines de blessés graves ont été signalés lors de ces violences d'après les rapports des Nations Unies. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Parlons à présent de ces retombées de la participation du gouvernement congolais à la 8e TICAD de Tunis. Le Premier ministre Samalou Kondé et le vice-président exécutif du groupe Mitsubishi Corporation échangent sur l'installation prochaine des activités de ce groupe japonais en RDC. Ce forum s'éveut l'espace de discussion du développement du continent africain appuyé par le Japon. Pour le ministre d'État en charge du plan, qui était aussi dans la délégation congolaise, les priorités pour le développement de la RDC à court terme passent par la sécurité et la stabilité. Christian Mwandunsimba l'a dit au cours d'une interview exclusive à Radio Capillaire. Il a été joint par Alain Rong.
En tant que ministre du plan, la priorité des priorités pour la République démocratique du Congo, c'est de remettre d'abord la stabilité et la sécurité. Deuxièmement, le plus important pour moi en tant que ministre du plan, c'est la résilience de notre économie. Elle ne peut être atteinte que par sa diversification. La diversification de l'économie, nous en parlons beaucoup, mais je crois que le travail est en cours pour essayer surtout et d'abord de relancer l'agriculture. La relance de l'agriculture a des préalables. Les préalables de la relance de l'agriculture concerne notamment le désenclavement de l'arrière-pays qui est la principale source de la baisse de la production. Il y a également la mise à niveau des variétés culturelles, l'encadrement des paysans et le transfert des technologies sur le plan agricole. Donc, la question des infrastructures est une question importante pour résoudre la question de la diversification de l'économie qui, à mon sens, avec la crise ukrainienne, avec la crise causée également par le confinement de Covid-19, pourrait permettre de ne pas tomber dans la famine.
Notez que le Premier ministre Samalou Kondé a à cette huitième TICAD interpellé les participants sur l'insécurité dans l'Est de la RDC et appelé les partenaires de l'Afrique à exiger la traçabilité des matières premières. Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques œuvrant dans l'importation au Congo central. Le transfert des conteneurs de marchandises sous douane vers Kinshasa vient d'être modernisé. L'Office congolais de contrôle OCC vient d'informatiser ce circuit en mettant en place une application de gestion et suivi des marchandises en transfert sous douane. Parmi les objectifs, il y a notamment la lutte contre la fraude, affirment les responsables de cette entreprise. Au lancement de cette application le week-end à Matadi, le responsable de la direction provinciale de l'OCC Kinshasa, qui s'est livré à cette exercice, a indiqué que cet événement est aussi bien avantageux pour cette entreprise que pour les importateurs. Le point avec Nana Plurich Mambo.
Transfert.occ.cd, c'est les liens que l'OCC vient de lancer pour accéder à l'application de gestion et de suivi des conteneurs de marchandises à transfert sous douane vers Kinshasa. Cette innovation met ainsi fin à la gestion manuelle durant plus d'une décennie de cette opération qui, du reste, avait des conséquences néfastes, comme l'affirme le chef de direction provinciale de l'OCC Kinshasa, Otokato Kachek.
Il se dégage souvent des écarts importants entre les conteneurs partis de Matadi vers Kinshasa et les conteneurs réellement réceptionnés à Kinshasa. L'autorité voulait fluidifier le suivi de ces conteneurs-là.
Les partenaires de l'OCC, dont la Fédération des entreprises du Congo FEC, l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane ACAD et qui ont représenté les opérateurs économiques, saluent cette initiative de l'OCC qui vient répondre à la question liée à la fraude. Joseph Makaya est le vice-président de l'ACAD.
Il y aura un code secret pour chaque commissionnaire en douane. Nous n'aurons plus à assister à des faux bordereaux.
Avant de lancer cette application, l'OCC a formé ses agents impliqués dans les circuits d'importation ainsi que les opérateurs économiques via les commissionnaires agréés en douane, la FEC et les déclarants en douane sur le fonctionnement de cette application. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Plusieurs sujets ont été abordés au cours du Conseil des ministres de vendredi dernier. Il s'agit notamment de l'amélioration du climat des affaires, de la numérisation de l'administration publique, ainsi que la situation de la compagnie aérienne nationale Congo Airways, que le président de la République a abordé dans sa communication. Concernant particulièrement la situation de Congo Airways, le chef de l'État s'est dit préoccupé par cette entreprise qui risque de ne plus travailler faute d'aéronefs. Suivez un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres, lu par la ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu, extrait proposé par Alain Rong.
Le président de la République a fait part au Conseil de la situation qui prévaut chez Congo Airways où il y a risque de cessation de vol faute d'aéronefs. En effet, les deux derniers avions encore en service doivent partir impérativement en entretien dans 2 mois. Cela aura pour effet de priver la compagnie nationale d'aéronefs, l'empêchant ainsi de remplir sa mission de desservir le territoire national. Pour éviter l'interruption momentanée des activités de cette compagnie nationale, avec les conséquences sur la mobilité aérienne dans notre pays, le président de la République a diligemment chargé les ministres ayant en charge les budgets, les finances ainsi que les transports, voies de communication et de désenclavement sous la coordination du Premier ministre de se pencher sur les options nécessaires pouvant permettre au Congo Airways de dégager dans un meilleur délai les pistes de solutions idoines. Un rapport est attendu au Conseil des ministres du 9 septembre prochain.
Exactement une semaine nous sépare de la rentrée scolaire 2022-2023 à RDC. Au Maniema, le chef de secteur des BIA, Jules Suédi, vole au secours de 84 écoles primaires en fourniture scolaire, des groupements Zili et Salunangi, Nkuku, Keigo et Missisi de la sous-division de Kalima dans le territoire de Pangi. Ce geste vise à appuyer la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le chef de l'État, dit-il. Florence Kiza nous en dit plus.
C'est l'eau des fournitures scolaires dont du secteur de BA était constitué des boîtes de crayons, stylos et cahiers pouvant faciliter le démarrage des cours au premier mois de la rentrée scolaire dans ces 84 écoles le plus reculées de cette entité. Bouchir Irachid Bienvenu, inspecteur itinérant du pôle primaire de Kalima qui a reçu ses dons, explique sa nécessité.
Ce n'est pas sa première fois d'aider les écoles. L'année passée à la rentrée scolaire, il avait aidé tous les inspecteurs avec les frais de déploiement pour aller superviser la rentrée scolaire. Et au niveau de NAFEP de cette année 2022, il a doté un moyen qui a servi que les centres qui sont très loin soient atteints. Oui, il y a nécessité parce que en tant qu'inspecteur, chef de cette entité, je sais que le fonctionnement des écoles du mois de juillet n'a pas été servi, donc la Caritas n'a pas payé. Et si lui ne donne pas les fournitures, comment est-ce que les écoles vont débiter?
Le chef de secteur de BA précise qu'il s'agit d'un premier lot, d'autres suivront. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Quelques jours après des élections disputées en Angola, les funérailles nationales de l'ex-président José Eduardo dos Santos ont eu lieu hier dimanche en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. De son côté, la commission électorale qui s'est réunie pour finaliser les résultats définitifs a déclaré dans la soirée d'hier que le processus suit son cours.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Corneille Nanga, ancien président de la CENI. Il a animé vendredi une conférence à l'université de Bunia sur le thème « Rôle de la jeunesse dans la recherche de la paix et du développement dans un état post-conflit ». Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, il revient sur la place des jeunes dans le processus de paix dans la province de l'Ituri, déchirée par les violences des groupes armés. Corneille Nanga est avec Martial Kiza.
Corneille Nanga, bonjour.
Bonjour.
Rôle de la jeunesse dans la recherche de la paix et du développement dans un état post-conflit. Pourquoi avoir choisi cet homme?
La situation qui se passe en Ituri est déplorable. En tant qu'Iturien, je ne pouvais pas garder silence, ni rester indifférent sans rien faire. Je suis venu donc en appui au gouvernement, en appui aux institutions, pour contribuer justement à la construction de la paix. Même la parole de Dieu dit, il y a un temps pour tout. On s'est beaucoup battu. Maintenant, c'est l'état de la paix. C'est le message que je suis venu dire.
Votre lecture de la situation sécuritaire actuelle à l'Ituri?
L'image qu'on a aujourd'hui à travers le monde de l'Ituri, c'est l'image qui est désolante. C'est tuerie, massacre, viol, guerre, groupes armés et autres. Que cette image-là, il nous appartient à nous de travailler pour que cette image change. En disant qu'il y a un temps pour tout, c'en est trop. Maintenant, il faut la paix, il faut le développement.
Au cours de votre conférence, vous êtes revenu sur les rôles que doit jouer la jeunesse dans la recherche de la paix à Ituri. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que la paix soit recouvrée dans cette province?
Première chose, le principe sacro-saint là. Il faut laisser, il faut que nous tous nous laissions le monopole de la force au seul État et à lui seul. Le partage de la force avec d'autres forces autres que l'État crée des problèmes. La solution, c'est que nous prenions d'abord l'engagement nous-mêmes pour la paix. Et c'est ce que je demande à mes frères de l'Ituri, à mes frères du Kivu. Ce que je demande, que ça n'est trop. Arrêtons.
À votre qualité de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, vous avez appelé les jeunes à s'enrouler massivement pour se préparer aux élections de 2023. Pensez-vous que ces opérations d'enrôlement pourront être possibles tant que l'insécurité persiste à l'Ituri?
Nous nous préparons aux élections pour l'année prochaine. Si nous suivons le communiqué de la CENI, il se pourrait que l'enrôlement des électeurs pourrait commencer à la fin de cette année. Le message que je suis venu dire aussi est que lorsqu'on va commencer l'enrôlement des électeurs, qui est en Ituri, qui est au Kivu, qui est en province orientale, c'est cette partie orientale du pays, un enrôlement massif et total. Qu'il n'y ait pas de raison qui justifierait que on n'a pas enrôlé telle ou telle autre personne à cause de telle ou telle autre raison dans l'insécurité. C'est ça notre message. Il faut qu'on arrête les conflits. Il faut qu'on ramène la paix.
Vous êtes venu prêcher la paix à l'Ituri, une province sous état de siège. Votre lecture sur les efforts qui sont fournis par les autorités militaires pour mettre la paix dans cette province.
La question de l'état de siège est une question institutionnelle. C'est le gouvernement, c'est le parlement et la présidence de la République, les institutions de la République qui ont décidé. C'est à eux d'en faire l'évaluation. Il est normal, il n'est pas anodin de dire que l'état de siège a été installé pour ramener la paix. Et il va falloir que cette paix vienne. Et si il y a encore des choses à dire, il faut des évaluations et envisager des solutions idoines. Mais ça ne vient pas de nous, ça c'est une question institutionnelle. Et nous saluons en passant les efforts qui sont faits par le gouvernement. Nous soutenons le FARDC et nous disons nous devons nous impliquer tous et regarder la même direction. Sans la paix, il n'y a rien. Sans la paix, il n'y a pas de développement.
Quel message avez-vous à ces jeunes qui ont pris les armes contre la République et qui sont en train de commettre des exactions dans les territoires de Djougou et d'Irumo en Ituri?
Mes frères qui se sont énervés, qui sont frustrés pour une raison ou une autre, et ils ont décidé de prendre les armes. Nous leur disons que lorsqu'on tue, celui qui tire est un Itourien. Et au bout du fusil, c'est aussi un Itourien. Ne nous entretuons pas entre nous. Qu'on ne nous manipule pas. Regardons la situation en face et envisageons plutôt des options politiques qui permettraient qu'on arrête un peu la guerre, mais qu'on commence définitivement le développement, parce que c'est cet espace du territoire ou cette province est plutôt une province à potentialité énorme.
Corneille Nanga, merci.
Merci beaucoup.
L'ancien président de la CENI répondait aux questions de Martial Kiza. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.